Plaisance, dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Bonjour et bienvenue pour terminer cette matinée avec à l'instant un moment de recueillement et de prière avec le Regina Celli. Alors au sommaire de ce 12-13, eh bien une émission spéciale encore toute cette semaine. Nous poursuivons notre hommage au pape François, décédé ce lundi de Pâques, avec Anne-Rose Jankovic qui va s'entretenir avec un frère de l'abbaye de Tournai. Il nous présentera trois livres marquants consacrés au pape François pour mieux comprendre sa pensée, son parcours et son héritage spirituel. Et puis, comme chaque semaine, la CR nous fera voyager à travers les Pyrénées en nous lisant un ouvrage choisi avec soin, bien sûr. L'auteur à l'honneur aujourd'hui est Alain Bourneton. Et puis, enfin, nous terminerons cette émission avec un récit bouleversant, celui d'une musulmane devenue chrétienne, un témoignage fort. Et ce livre a été sélectionné par Nicolas Dargegène, le responsable des archives au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Voilà rapidement donc le sommaire de ce magazine. Très belle fin de journée à notre compagnie. Peut-être bon appétit si vous êtes déjà devant votre assiette. Et puis prudence bien sûr si vous êtes dans votre voiture en train de nous écouter. C'est toujours un bonheur de venir vous rejoindre entre 12h et 13h. L'actualité, il va être question tout de suite avec l'école de journalisme. Et c'est notre ami Émile Boudjema de l'école journaliste de Toulouse qui nous présente aujourd'hui l'essentiel de l'actu.
Bonjour à tous. Dans l'actualité ce matin, certaines autoroutes à nouveau fermées à Toulouse pour cause de travaux de rénovation des chaussées. La bretelle en provenance de Foix, appartenant à la 66, en direction Toulouse de la 61, sera fermée, et ce jusqu'à demain de 20h à 7h du matin. Le métro se permet également quelques perturbations. Un des tunneliers de la ligne C cause des dégâts à des habitations du quartier Bonnefoy. Cela provoque des fissures apparentes sur certaines maisons superficielles. Seront prises en charge par la société Tisséo. Les fortes précipitations en Dordogne et dans le nord du Lot perdurent. Elles sont à l'origine d'un éboulement de falaise avant-hier dans la commune de Le Roc. La route départementale 43 a dû être fermée, le restera jusqu'à vendredi au minimum. Des stations pyrénéennes abandonnent le ski alpin, peut-être définitivement, c'est le cas d'Otacam près d'Argelès-Gazost. La baisse de fréquentation due au défaut de neige pèse sur les finances de la station. Ce soir et dimanche ont lieu une projection de la captation de l'opéra centrée sur la figure de Bernadette de Lourdes. Rendez-vous au cinéma Rex de Pamiers à 16h et à 20h pour assister à la séance. Un tarif réduit pour les groupes est même proposé et sera de 10€ par personne. Une fresque pour explorer le lien entre la terre et le ciel à Toulouse. Cette œuvre sera peinte sur le château d'eau situé à l'observatoire de Pêche-David. De la nature au cosmos, c'est son nom. Elle devrait être achevée cet été au moment du passage des coureurs cyclistes du Tour de France.
Merci beaucoup, Émile Boudjema de l'école de journalisme donc de Toulouse, qui est notre partenaire et qui nous suit bien sûr tout au long de cette saison radiophonique. Le retour de l'information, ce sera cette fois-ci à 12h30. Dans un instant, nous allons partir pour la très belle abbaye de Tournai dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Mais avant, eh bien, je vous propose un petit moment de plaisir aussi, puisque la musique est un vrai plaisir et c'est Eyal que j'ai sélectionné pour vous.
Tout ce qu'on a et tout ce qu'on n'a pas, toutes ces petites choses qu'on oublie parfois, tout ce qui nous manque et nous tend les bras, à tout ce qu'on vivra, à tout ce qu'on vivra.
Le matin, le soleil, quand je le revois, ça fait plaisir, yeah, yeah, yeah. Les amis qui passent, on se revoit, ça fait plaisir, yeah, yeah, yeah. Marcher seul pendant des heures, j'ai la rue sans rhum dans mon cœur. Les après-midi en terrasse, on y revient, ça fait plaisir.
Tout ce qu'on avait et tout ce qu'on n'a pas, toutes ces petites choses qu'on oublie parfois, tout ce qui nous manque et nous tend les bras, à tout ce qu'on vivra, à tout ce qu'on vivra. Tout ce qu'on avait et tout ce qu'on n'a pas, toutes ces petites choses qu'on oublie parfois, tout ce qui nous manque et nous tend les bras, à tout ce qu'on vivra, à tout ce qu'on vivra.
Les week-ends à la mer, au creux des vagues, ça fait plaisir, yeah, yeah, yeah. Allez voir ma grand-mère. si tout est gris. Mais moi je vois un soleil qui brille. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. 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 Tout ce qu'on avait et tout ce qu'on n'a pas. Toutes ces petites choses qu'on oublie parfois. Tout ce qui nous manque et nous tend les bras. À tout ce qu'on vivra, à tout ce qu'on vivra. C'est dur parfois, même si t'es pas là, si t'es pas là.
Voilà, bon moment de aussi de plaisir avec ce morceau de musique. Je vous propose de partir pour la très belle abbaye de Tournai, grâce à Anne-Rose Jankovic. Nous poursuivons cette semaine, bien sûr, l'hommage au pape François décédé ce lundi de Pâques.
Radio Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Bonjour frère Martin.
Bonjour Anne-Rose et bonjour chers auditeurs de la région Occitanie sur Radio Présence.
Il y a quelques jours frère Martin, les auditeurs de Radio Présence vous ont entendu puisque Radio Présence avait posé ses valises à l'abbaye Notre-Dame de Tournai, là où vous êtes vous-même frère bénédictin. Et samedi dernier, samedi saint, eh bien, vous avez fait découvrir aux auditeurs de Radio Présence la librairie de l'abbaye Notre-Dame de Tournai. Vous êtes le frère libraire, vous nous aviez donné des conseils de lecture pour bien vivre le samedi saint et rentrer dans la joie pascale. Alors depuis, eh bien, Christ est ressuscité, alléluia. Et puis, eh bien, vous le savez, notre cher pape François est retourné à la maison du Père. Alors, on revient vers vous, nous, frère Martin, pour avoir quelques conseils de lecture, pour revivre en lecture le pontificat du pape François, peut-être bien vivre cette période qui est à la fois une période de deuil et une période d'espérance. D'ailleurs, nous sommes toujours dans l'année jubilaire de l'espérance. Alors, vous allez nous donner aujourd'hui vos conseils de lecture et je crois que vous avez choisi trois ouvrages. On va commencer avec un livre qui a été publié au moment du Covid. Et on se souvient de cette image très forte du pape François tout seul sur la place Saint-Pierre, traversant la place Saint-Pierre au moment du Covid. Rome, le Vatican était désert et puis le pape François était là tout seul en pleine période de crise Covid. Et tout cela, eh bien, s'est raconté dans un livre, Un temps pour changer. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet ouvrage ?
Oui, tout à fait. Donc, lundi matin, nous avons appris le décès du pape François après la messe. Quelqu'un me dit, le pape est mort. Sur le coup, même, je me disais, mais est-ce que l'information est vraie ? Est-ce qu'elle n'est pas vraie ? Comme il circule beaucoup de choses. Et puis donc, après, on a vite rendu compte. Et quand vous m'avez sollicité pour parler de quelques livres à propos du pape François, c'est ce premier livre qui m'est venu à l'esprit. Un temps pour changer, donc qui reprend des réflexions du pape au moment de la crise du Covid, parce que peut-être que malgré tous les autres événements qui se sont passés dans le pontificat du pape François, c'est quand même un événement particulier qui a touché toute la planète, et c'est quand même un livre qui a eu aussi un gros impact. C'est pour ça que j'ai pensé à ce livre. Il évoque quelques réflexions provoquées par la crise du Covid, parce qu'on a peut-être plus le temps de se poser pour revoir sa vie, passer un temps, comme il dit, pour voir, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que j'ai reçu, quelles sont les valeurs qui comptent pour moi. Et puis, fort de cette étape, prenant conscience de ce qui se passe en nous, le pape nous invite à discerner ce qui vient du Seigneur, ce qui est bon, ce qui est à approfondir, et peut-être ce qui est moins bon, ce que nous devrions éviter, voilà, ce qui est moins dans une dynamique évangélique. Et comme nous connaissons bien le pape aussi, qui était très agissant et qui portait des gestes souvent très significatifs, dans un troisième temps, le pape nous invite à agir, voilà, à faire quelque chose, s'engager. Et c'est intéressant parce qu'il souligne souvent des engagements, mais tout petits dans le quotidien, voilà, aider son voisin, aider une voisine, prendre soin de quelqu'un. Et je pense que c'est vraiment, voilà, important de le suivre dans tes réflexions. Et ce livre vraiment a reçu un grand écho il parle à ceux qui sont déjà très ancrés dans la prière, qui sont des catholiques actifs, à ceux qui sont plus loin, à ceux qui vivent peut-être d'une autre façon. Et voilà, ce livre a vraiment quelque chose à nous dire par les réflexions de ce temps privilégié.
Alors c'est un livre de conversation, hein. Ça n'est pas, c'est pas comme un texte, comme une encyclique.
C'est un texte, ce n'est pas une conversation, temps pour changer, non.
C'est un texte, pardon. Alors, je n'ai pas la bonne info. Heureusement que vous êtes là, frère Martin, pour me corriger. C'est un livre...
C'est notre livre qui est une conversation.
C'est un livre qui est pour quel public, enfin, quelle tranche d'âge? Qui peut le lire? Alors là, vous nous avez dit des chrétiens et des pas chrétiens, mais au niveau de l'âge. C'est facile à lire pour tous les âges,
oui. Ah oui, et puis ce qu'écrit le pape est toujours très compréhensible, très pédagogique, et donc... on le lit facilement, quoi. Et même nous, les frères, nous l'avons lu au réfectoire. Voilà.
Et c'est vraiment à la fois une espèce de conseil, de feuille de route, mais c'est aussi un livre dans lequel il parle de sa propre expérience, de ce qu'il a vécu, lui, pendant le confinement. Il se livre un petit peu.
Un peu, c'est-à-dire, c'est surtout qu'il il regarde, malgré les problèmes du confinement, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qui nous est donné et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qui nous est donné. Et je crois que ça, ta marque pour le confinement, mais ta marche hors du confinement, voilà. Pouvoir regarder ce que Dieu nous donne, ce qui m'entoure, ce qui est bon autour de moi, et même en dehors du confinement, ça peut nous parler. Et je pense que c'est même intéressant, j'ai pas eu le temps depuis lundi de le relire, mais de le relire loin de la crise du Covid, et ce livre peut faire sens à tout temps. Et pour moi, ça, c'est vraiment un des grands livres, et il a eu un succès de librairie très, très important.
Dans ce livre, il compare la crise Covid, il évoque la crise Covid comme étant notre moment Noé. Des moments Noé, on en a certainement eu, et on en aura certainement plein d'autres dans notre vie. Donc effectivement, ce livre peut être un compagnon de route.
Voilà. Et alors en plus, il est sorti en poche. Il a été édité par la maison Flammarion et maintenant il est chez J'ai lu en poche à un prix tout à fait abordable. Il est en train d'arriver parce que j'ai commandé dedans et je n'en avais déjà plus. Il coûte 7 euros, je pense.
7 euros. Donc un prix très abordable pour vraiment se... Et transportable dans la poche, on a bien compris. Et donc qui peut vraiment nous aider à traverser des moments peut-être un peu particuliers, des moments de crise et pas seulement des moments de crise, mais voilà, traverser le temps, avancer dans la vie tout simplement avec voilà. Ce livre, Un temps pour changer. Merci frère Martin pour ce premier livre. Alors on va marquer une petite pause, une petite virgule dans notre jargon radiophonique, et puis on va se retrouver pour une deuxième proposition de lecture.
Présence à Bagnères-de-Bigorre 88.9.
Voilà, on se retrouve avec vous, frère Martin, qui êtes le frère libraire de l'abbaye Notre-Dame de Tournai. C'est vous qui tenez cette librairie que vous nous avez fait découvrir via les ondes de Radio Présence à l'occasion du Tridôme Pascal, puisque Radio Présence était installée à l'abbaye Notre-Dame de Tournai pour tout le Tridôme. Alors, vous nous avez parlé d'un premier ouvrage que nous pouvons lire pour... mieux comprendre et se replonger dans les années de pontificat du pape François, Un temps pour changer. Et maintenant, nous allons parler d'un deuxième livre qui s'appelle Vivre. C'est un des livres qui vous a marqué, je crois.
Oui, c'est un des livres qui m'a marqué et qui, du coup, nous avons lu aussi au Réfectoire des Moines. Vous voyez, je vous propose déjà un deuxième ouvrage que nous avons eu à la lecture au Réfectoire parce qu'à travers... les épisodes, les grands moments de l'histoire depuis la naissance de Bergoglio, il évoque ces moments importants de l'histoire et comment lui les a vécus quand il était en Argentine, puis ensuite, ailleurs. Et à chaque événement historique, à chaque fois, il en profite pour dire des choses de fond sur certains sujets. Et vraiment, c'est très intéressant parce que on est relié, voilà, à ce qui nous a précédé. Et le pape en profite aussi pour souligner des points importants qui lui tiennent à cœur, de la vie en société, des plus pauvres, voilà, de sauvegarder la vie, de faire attention à la création. Voilà. Je crois que tout ça est très intéressant. Et puis, c'est un livre qui se lit de façon légère et qui permet aux plus jeunes générations aussi de se replonger peut-être dans des événements qu'ils n'ont pas vécu directement. Et pour les plus anciens, ça leur rappellera ces événements.
Alors là, c'est vraiment un livre qui balaye effectivement des thématiques très diverses et très larges de notre histoire et de nos sociétés. Ça va du mur de Berlin aux abus dans l'Église. C'est vraiment replonger dans notre histoire, c'est à travers la vie et l'histoire du pape François, qui lui-même, dorénavant, est entré dans l'histoire.
Voilà, tout à fait. Et c'est intéressant de voir ton point de vue qui est, je dirais, un homme normal sur la planète, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Il réagit des fois en tant que pape, mais en tant qu'homme. Et c'est intéressant d'entendre l'articulation de son humanité, de sa première réaction, et puis en tant que pape, voilà, il donne à chaque fois un message, quoi. Et bon, ce qui est évidemment très fort, au début du livre, évidemment, qu'il a vécu et comment qu'il a reçu la Première Guerre mondiale, je l'ai dit, quand il était encore jeune, quoi. Je crois que ça, c'est vraiment très, très impressionnant.
Et oui, en 1939, presque à peu près 3 ans, même pas encore 3 ans. Voilà, donc il a vraiment vécu. Il raconte tout ça à la fois avec ce qu'il est au moment où il écrit, voilà, pape, mais avec son souvenir de petit garçon de 3 ans.
Ah oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment.
C'est ça qui vous a touché.
Oui, et puis surtout c'est qu'à travers, c'est le point de vue de l'homme et le point de vue du pape qui sont conjugués. Et donc c'est intéressant de l'entendre comme homme, et puis il ne résiste pas à nous donner aussi un point de vue, alors là, bien centré. Il envoie évidemment toujours des choses très percutantes, quoi, sur la vie d'aujourd'hui, sur comment travailler à la paix, comment être attentif aux autres. Ça, c'est vraiment toujours très, très important, quoi. Et surtout, voilà, la paix qui lui était vraiment un point qui lui tenait à cœur. On a bien vu son implication pour la guerre de l'Ukraine.
Mmh. Donc, c'est pour un public plutôt averti déjà, qui connaît déjà l'histoire du monde ?
Non, c'est pas pour un public averti, justement. C'est vraiment pour un tout public. Et si on n'a pas vécu d'événement, mais comme il y a à chaque fois une part qui retrace l'événement et ensuite sa réaction... Vraiment, c'est ça qui est très intéressant. Et au contraire, je pense que pour les plus jeunes générations, c'est peut-être une bonne porte d'entrée quand on n'a pas vécu les événements, quoi.
Voilà, ben c'est intéressant de préciser aussi quel public peut découvrir, se plonger dans ce livre, vivre. Quel est l'éditeur ?
Alors, c'est un éditeur original, comme souvent avec le pape. Cette fois, c'est Harper & Collins. Vous voyez, c'est un éditeur qui est anglo-saxon, mais qu'on connaît plus pour des dictionnaires et qui a édité ce livre.
Voilà, et c'est un...
Celui-là n'est pas encore en poche, il coûte 20,90€, mais je pense que c'est une lecture facile, plaisante et qui à la fois suscite beaucoup de réflexion.
Voilà, et qui a été publié en 2024. Alors, le précédent livre dont vous nous...
Il est pas...
Mars 2024. Vous l'avez en rayon ?
Il est dans les colis.
Il a déjà été, donc ça veut dire qu'il a déjà été très lu aussi.
Oui, il a eu, oui, parce que justement c'est un autre point de vue. Ce n'est pas un livre que religieux et donc il est accessible à beaucoup de public, quoi.
Voilà, vivre mon histoire à travers la grande histoire du pape François, publié en mars 2024 et publié chez Harper & Collins. Alors on va marquer notre petite pause, une petite virgule, frère Martin, puis on vous retrouve pour parler d'un troisième ouvrage. À tout de suite.
Merci, à tout de suite.
Présence à Lannemezan, 92.2.
Nous sommes toujours avec vous, frère Martin, qui êtes le frère libraire de l'abbaye bénédictine Notre-Dame de Tournailles. Alors, vous nous donnez des idées de lecture, tout simplement. C'est une manière un peu originale qu'on a trouvée ensemble pour rendre hommage au pape François, puisque depuis lundi, quand on a appris son décès, eh bien, on a reçu au micro de Radio Présence beaucoup d'invités qui nous ont parlé de la vie du pape François, de ce qu'il a apporté dans l'Église, des défis qu'il a tenté de relever pour l'Église, de sa vision. Et puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut lire ? Qu'est-ce qu'on peut lire pour bien comprendre comment et en quoi le pape François a avancé et a déployé sa vision de l'Église catholique ? Eh bien, vous nous donnez donc des idées de lecture pour bien comprendre tout ça, frère Martin. Alors, vous nous avez parlé déjà de 2 ouvrages et on va terminer aujourd'hui avec, je crois, quelque chose de plus spirituel. Voilà, un ouvrage plus spirituel. On a déjà parlé d'ouvrages un peu historiques. Mais là, vous voulez terminer avec un ouvrage plus spirituel qui s'appelle, je crois, La prière, c'est ça ?
Oui, La prière, un guide complet aux éditions de l'Emmanuel. Parce qu'aux éditions d'Emmanuel, il y a un tout petit livre du pape François sur la prière, mais celui-là est un peu plus développé. Et en fait, il reprend des catéchèses après l'année de 2020, donc parce qu'il est paru en décembre de 2020, sur la prière. Alors, ce livre a retenu mon attention parce que je crois qu'en tant que moine bénédictin, la prière essaie d'être au cœur de notre vie. Et parce qu'aussi, ce livre a eu un grand retentissement et il a surtout aidé beaucoup de nos lecteurs. Et c'est pour ça que j'ai pensé à ce livre. Ce livre permet une entrée dans la prière pour quelqu'un qui a envie de découvrir la prière. Mais je crois aussi que pour les priants d'aujourd'hui, ceux qui sont un peu engagés, qui prient de temps en temps, ceux qui prient régulièrement, c'est aussi une bonne remise à niveau. Et le pape, avec sa pédagogie qui est toujours si claire et si nette, redéploie tous les fondamentaux de la prière. Alors ce livre est intéressant puisque c'était des catéchèses du mercredi, vous savez, à l'audience générale. Donc il y a des chapitres qui ne sont pas trop longs. Donc dans une vie qui est quelquefois très occupée, c'est très facile de relire quelques chapitres. Il balaye surtout beaucoup de personnalités bibliques et beaucoup de textes bibliques pour nous aider à rentrer dans la prière. Et ensuite, en bon pape jésuite, voilà, il nous invite à revoir les fondamentaux du déroulement de la prière. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment, toujours avec des mots qui sont très abordables, c'est vraiment un livre qui me paraît, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore parcouru ou ceux qui ne le connaissent pas encore et ceux qui l'ont déjà lu, je crois que c'est un livre à garder et à reprendre pour simplement faire le point où est-ce que j'en suis dans ma prière, donner de nouvelles idées, me recentrer, redonner du goût.
Donc voilà. À la fois, peut-être mieux comprendre ce qu'est la prière et puis peut-être améliorer ou découvrir sa propre prière. Il avait vraiment ce souci que chacune de ses brebis puisse apprendre à entretenir une relation avec le Seigneur par la prière. Hein. Il avait vraiment ce souci de la prière pour chacun de nous.
Oui, ça, je crois que pour lui, c'est absolument essentiel. Je crois que c'est essentiel à tout chrétien, mais il a su le dire voilà, d'une façon, comment peut-on témoigner dans sa première encyclique sur la joie d'Évangile. Comment être témoin, disciple missionnaire, si on n'est pas d'abord soi-même enraciné dans la parole de Dieu et dans la prière. Donc voilà, je crois que c'est pour ça que ce livre me paraît important, parce que c'est le point d'ancrage qui permet ensuite d'avancer dans notre vie de prière.
Et de nous dire que la prière n'est pas réservée à quelques experts de la pratique de la foi.
Et elle n'est pas réservée aux moines. D'ailleurs, nous vous accueillons pour prier avec nous, en silence, pour la prière commune. Elle n'est pas réservée à nous, ce que nous avons souvent entendu de façon déformée. Voilà.
Alors, ce livre sur la prière, un guide complet, là encore, on imagine qu'il est pour tout le monde. Tout le monde a besoin de prière et de vie spirituelle.
Oui, tout à fait. Je vous dis, pour les personnes qui se sentent appelées à prier, qui ont besoin d'un petit peu de repères, avec ce livre, ça vous aide, vous. En plus, il y a des tables des matières, donc vous pouvez aller à quelques chapitres que vous avez envie de regarder. Et sinon, je crois que pour ceux qui prient déjà, ça permet de faire le point et peut-être de se redynamiser, de redécouvrir des axes qu'on avait un peu oubliés. Voilà, la mémoire est quelquefois un peu faillible, donc il est bon de l'entretenir avec ce livre.
Paru en juillet 2021 aux éditions d'Emmanuel, donc la prière à guide complet, c'est quelque chose aussi que vous avez dans vos étagères, bien sûr.
Oui, ça nous amène toujours dans mes étagères parce que justement, quand un lecteur cherche quelque chose pour l'aider à la prière, c'est souvent ce livre que je conseille.
Eh bien, merci beaucoup, frère Martin, pour vos conseils de lecture.
Les auditeurs, et je vous souhaite de trouver du goût dans ces lectures que nous avons essayé de vous proposer. Il y en a bien d'autres aussi, si vous voulez aller vers d'autres choix.
Voilà, alors on peut peut-être rappeler aux auditeurs les horaires de la librairie de l'abbaye de Tournai où vous les accueillez et où vous leur proposez ces trois ouvrages et puis bien d'autres encore. À quel moment on peut venir à l'abbaye de Tournai ?
Alors, la librairie est ouverte tous les jours, tous les après-midi. Elle est simplement fermée le lundi matin. Donc, le matin, l'horaire est de 10h, mais en fait, c'est quand nous sortons de la messe, donc des fois un petit peu avant. jusqu'à 11h45 et tous les après-midi, jour férié compris dimanche, de 14h30 à 17h45.
Voilà, alors si on arrive avant l'horaire, avant l'ouverture de la librairie le matin, on peut se joindre aux moines pour prier pour la messe.
Pour la messe, qui est à 9h du matin, voilà, c'est ça.
Voilà, tout est dit. Merci beaucoup, frère Martin, pour vos conseils de lecture et à très bientôt sur les ondes de Radio Présence.
À bientôt, merci.
Un grand merci à Anne-Rose Jankovic qui nous fait des émissions spéciales tout au long de cette semaine. Et demain, elle aura l'abbé Pochoulu qui est chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et bien, on parlera après, bien sûr, l'enterrement du pape. Et bien, le conclave qui va avoir lieu, comment ça se passe, comment on va élire un nouveau pape. C'est ce que nous dira et nous fera découvrir donc demain Anne-Rose Jankovic dans son prochaine émission. Nous allons poursuivre en musique et on se retrouve d'ici quelques instants pour le journal de la mi-journée.
Présence à Pamiers, 100.2.
C'est Vincent Niclot que nous retrouvons avec la reprise de ce grand tube Carousel en version live, comme on dit. 12 heures passées de 27 minutes sur Présence.
Guido del mare luccica e tira forte il vento. Una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio. C'è il mezzo al mare, persone non ti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso usci una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio. Dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai. Ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, che scioglie il sangue di te. We'll be right back.
Le chanteur Vincent Niclot sur Présence. 12h passées de 38 minutes, on retrouve tout de suite le journal de la mi-journée.
Présence dans la cité mariale, 96.
Et le journal nous est présenté par Émile Bouchema de l'école de journalisme de Toulouse, que je salue. Bonjour Émile.
Bonjour à tous. Dans l'actualité ce matin, certaines autoroutes à nouveau fermées à Toulouse pour cause de travaux de rénovation des chaussées. La bretelle en provenance de Foix, appartenant à l'A66, en direction de Toulouse, appartenant à l'A61, sera fermée. Et ce, jusqu'à demain. Elles seront inaccessibles de 20h à 7h du matin. Des itinéraires de déviation balisés par des panneaux seront mis en place pour assurer la fluidité de la circulation. Les conducteurs sont invités à anticiper leur trajet et à suivre les indications affichées. Le métro se permet également quelques perturbations. Un des tunneliers de la ligne C cause des dégâts à des habitations du quartier Bonnefoy. Cela provoque plusieurs fissures apparentes sur certaines maisons. Elles ne seraient que superficielles d'après les experts. La société de transport Tisséo a annoncé qu'elle prendra en charge les travaux de remise en état des habitations concernées. Elles ont déjà fait des dégâts les derniers jours. Les fortes précipitations en Dordogne et dans le nord du Lot perdurent. Elles sont à l'origine d'un éboulement de falaise avant-hier dans la commune de Le Roc. La route départementale 43 où le sinistre a eu lieu a dû être fermée et le restera jusqu'à demain au minimum. En attendant, une déviation a été mise en place par le département du Lot.
Si les plaines se retrouvent inondées, en montagne en revanche, on manque de neige, Émile.
En effet, Jonathan, malgré un week-end pascal sous la neige à certains endroits, des stations pyrénéennes abandonnent le ski alpin, peut-être définitivement. C'est le cas d'Autacam, près de Argelès-Gazost. La baisse de fréquentation due au défaut de neige pèse sur les finances de la station. Elle mise désormais sur d'autres activités comme la randonnée, la luge et les loisirs d'été, par exemple. Ce soir et dimanche ont lieu une projection à la captation de l'opéra centrée sur la figure de Bernadette de Lourdes. Rendez-vous au cinéma Rex de Pamiers à 16h et 20h pour assister à la séance. Un tarif réduit pour les groupes est même proposé et sera de 10€ par personne. Retour à Toulouse pour finir, une fresque pour explorer le lien entre la terre et le ciel. À l'issue du vote des Toulousains, les muralistes Mélène Guesdon, Woizo et Stéphane Vignal Opéra ont remporté l'appel à projet de Toulouse Métropole. Cette œuvre sera peinte sur le château d'eau situé à l'observatoire de Pêche-David. De la nature au cosmos, c'est son nom. Elle devrait être achevée cet été au moment du passage des coureurs cyclistes du Tour de France.
Merci Émile Bouchema de l'école de journalisme de Toulouse, qu'on retrouvera bien sûr dès demain. Nous allons poursuivre cette émission avec un récit bouleversant, celui d'une musulmane qui est devenue chrétienne. Et c'est Nicolas Dargegène, responsable des archives au sanctuaire, qui a sélectionné ce livre qui nous présente tout de suite.
Présence à la Capelle Marival, 97.7.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un témoignage poignant, celui d'une conversion, celle de Jamila Djelloul. Son livre s'intitule « Musulmane, Jésus m'a libéré ». Il est édité chez Arthège en 2024. Un témoignage fort qui nous remue dans notre foi et notre relation avec le Christ. Jamila est née en Algérie dans une famille musulmane. Elle quitte l'Algérie à 4 ans avec sa famille pour venir en France en Champagne. Puis, toute la famille part vivre en Bretagne, à Plohermel. Là, Jamila va rencontrer des chrétiens, mais elle s'en méfie. Elle se méfie notamment des trois religieuses qui vivent dans son immeuble. Comme elle l'écrit, « Quand je les croisais, je les regardais avec mépris. Pour moi, elles représentaient le démon. Je me disais que si les chrétiens vont tous en enfer, à plus forte raison, ces religieuses s'y investissent dans cette religion. Je leur prédisais un châtiment plus terrifiant encore. » Les sœurs vont pourtant aider la famille, et quand la famille va connaître des moments difficiles, une vie précaire, alors ces religieuses que Jamila maudissait en secret vont être présentes. Elles vont aller jusqu'à donner de l'argent à la famille. Voyant cela, Jamila est bouleversée. « Ils iront en enfer, m'avait-on enseigné. Ils ne sont capables que de faire du mal, puisqu'ils sont mécréants, puisqu'ils ne croient pas comme il faut. Tout ça, décidément, ne collait pas avec ce que je voyais. Ces religieuses si gentilles, pourquoi devaient-elles aller en enfer ? Pour moi, l'enfer, c'était de ne pas aimer les autres. Or, ne venais-je pas d'être témoin d'une grande preuve d'amour ? Aurais-je appris un mensonge, ou Dieu serait-il injuste ? Où est la miséricorde de Dieu ? Et puis, toute la famille va être entourée par des purs gestes de charité chrétienne, mettant le trouble dans son esprit. J'avais 14 ans, j'étais en contradiction avec Dieu, je lui en voulais presque, je ne comprenais rien. Un soir, en cachette, Jamila va regarder la télévision. Elle va découvrir la vie d'une jeune fille qui a presque son âge. Une histoire ancienne qui se passe à Lourdes en 1858. Jamila n'avait jamais entendu parler de Bernadette Soubirous. Elle est captivée. C'est bien simple, je voulais être cette Bernadette. apercevoir la Vierge Marie à mon tour. J'étais à la fois heureuse et inquiète. Qu'est-ce qui me prenait, moi, ado, musulmane, de ressentir ce désir ? Et puis Djemila rencontre un jeune homme, un chrétien, Jacques. Il tombe amoureux. Le père de Djemila ne supporte pas cela et la frappe à coups de marteau. Djemila est secourue, placée en foyer. Je ne vais pas vous raconter tout ce que Djemila va connaître dans sa vie privée, tout est raconté dans son livre, mais à un moment, alors qu'elle est mariée avec un musulman, elle va vouloir consulter des livres sur sa religion et va aller dans une bibliothèque. Dans le rayon spiritualité, elle va tomber sur une Bible. Le livre maudit, comme elle l'écrit, le livre falsifié, celui qu'on m'avait toujours interdit, qu'on nous interdit de lire. Que pouvait-il donc contenir de si répréhensible pour que les musulmans le honnissent ? Y avait-il dedans des paroles sataniques ? Une seule solution s'impose à elle pour répondre à ces questions, lire la Bible. Elle emprunte le livre en cachette à la bibliothèque. Et elle découvre les évangiles. Et Jésus commence à se révéler à travers sa lecture. Elle écrit elle-même « Je me sens alors aimantée, aspirée comme si une force en moi me poussait à continuer. C'était étrange, je n'avais jamais ressenti une telle soif de lire, moi qui lisais si peu. En tous les cas, je n'avais jamais lu cela avec le Coran. » Le Coran, je le lisais avec les yeux, mais mon esprit vagabondait ailleurs. Là, non, j'étais concentré, concerné, happé même. J'avais l'impression que ces paroles s'adressaient à moi personnellement. Elles étaient belles, ces paroles, elles me réconfortaient, apaisaient mon âme. On découvre comment le Christ s'est approché d'elle doucement. Dieu va lui parler, il va se révéler à elle à travers de nombreux songes. En fait, Dieu est là. Un prêtre lui dira « Dieu te cherche » et c'est exactement cela que nous pouvons lire dans son témoignage. Et Djemila va se convertir. La conversion, c'est un changement de direction dans notre vie. C'est une découverte ou une redécouverte. C'est le Christ qui se montre à nous, se révèle. Et très souvent, le nouveau converti s'aperçoit que Dieu finalement marche à ses côtés depuis toujours et qu'il n'a simplement pas voulu ou pas réussi à l'écouter alors que Dieu était là. Et Djemila aussi cherche toujours Dieu. Elle vient alors à Lourdes. Et c'est au retour de la cité mariale qu'elle se sent libérée de tous ses doutes et qu'elle accède enfin à la vérité. Une vérité évidente pour elle. La lumière du Christ est la seule qui éclaire et qui libère, la seule qui peut rendre libre. Quelque temps après, elle est baptisée. Et depuis, avec beaucoup de zèle, elle annonce le Christ autour d'elle. Sa conversion ne s'est pas faite sans douleur. Il y a eu des moments difficiles. Son entourage a pu être violent. Son témoignage est profond, sincère. On peut y lire les doutes, les questionnements, les renoncements qu'elle a pu avoir tout au long de son cheminement qui va l'amener vers le Christ et vers le baptême. Le baptême a eu lieu dans la nuit de Pâques 2008. Ce moment-là est un moment fort. Je venais d'entrer dans la famille des chrétiens. Enfin, j'étais une enfant de Dieu. Jésus habitait pour de bon dans mon cœur. Déjà, je me sentais pousser des ailes pour aller crier au monde entier combien le Seigneur était bon, combien était grand son amour. En premier lieu, je pensais bien sûr à ma famille musulmane. Je désirais qu'eux aussi puissent goûter à ce bonheur, à cette joie du Seigneur que je venais de recevoir en cadeau. J'avais envie d'aller trouver tous mes frères et sœurs musulmans pour leur dire combien la vie avec lui était merveilleuse. Et depuis, Djemila témoigne dans des conférences, des forums. Elle évangile tout autour d'elle. Elle participe à des missions d'évangélisation de rue. Elle irradie de la présence et de l'amour de Jésus, pleine de confiance en Dieu. Comme elle l'écrit, j'ai vécu tellement de signes étonnants, de grâces, de bénédictions, que j'ai confiance et laisse le plan de Dieu s'accomplir. Djemila a été baptisée il y a 17 ans maintenant. On pourrait s'imaginer qu'elle est épuisée, qu'elle n'est plus habitée par ce feu sacré. Mais il n'en est rien. Djemila est toujours remplie de cette force de témoignage. Comme elle écrit dans la conclusion de son livre, « Le plus beau, le plus énorme et le plus précieux cadeau que Dieu nous a offert, c'est son Fils Jésus, un cadeau d'une portée éternelle. À notre tour de l'offrir, je rends grâce à Dieu pour lui, pour son amour infini prouvé sur la croix, sa bonté envers nous qui sommes indignes, tout ce chemin qu'il m'a fait parcourir à sa suite. Pour tous ses appels dans ma vie, pour tous les plans qu'il a préparés pour moi et mis à exécution, pour la patience infinie dont il a fait preuve envers moi, pour sa fidélité et son amour sûr et inconditionnel, et pour toutes les grâces qu'il m'a accordées, surtout celle de le connaître et de l'accepter comme sauveur dans ma vie. J'ai tout reçu du Seigneur gratuitement, à mon tour de donner gratuitement ce que j'ai reçu. » C'est une formidable et très belle leçon que nous donne Djemila Djelloud dans son ouvrage « Musulmane, Jésus m'a libéré » paru aux éditions Arthège en 2024. On trouve cet ouvrage dans toutes les librairies et dans la librairie du sanctuaire. À noter que Djemila Djelloud donnera une conférence témoignage à la paroisse de Lourdes samedi 26 avril à 20h30.
Présence à Aurignac, 94.1. Sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Bonjour Anna Lasserre.
Bonjour Philippe.
Chaque semaine, nous sommes là, fidèles au rendez-vous, quoi, 7 ans, hein, on avait dit la semaine dernière à peu près.
Oui, 7 ans minimum.
Et vous aviez d'ailleurs écrit un livre où vous aviez compilé certaines de vos chroniques que vous aviez fait à la radio.
Oui, une anthologie qui m'avait été demandée par les éditions Kern, 103 écrivains.
Voilà.
Et justement, je parlais de Maurice Druon que nous avons évoqué il y a...
Quelques semaines.
Peut-être deux semaines.
Deux semaines. Alors aujourd'hui, nous allons, vous nous l'avez dit la semaine dernière, à Gavarnie et à Barège, où nous apercevons le duc de Montpensier nous je le prononce bien, Montpensier.
Oui.
Nous prenons donc cette fameuse machine que tout le monde nous envie, c'est la machine à remonter le temps, puisque nous avons sélectionné la date de 1843.
Et en plus, Philippe, nous accompagnerons un adolescent, Alphonse Blaquière, venu dans les Pyrénées avec son grand-père.
Comme cela d'ailleurs se faisait alors. Il parcourt les Pyrénées à cheval, avec certificat de douane à l'appui pour éviter les trafics de chevaux.
Oui, ça je l'ai découvert
dans le livre.
Voilà. Et à Barèges, le jeune garçon aperçoit le duc de Montpensier, le fils cadet du roi Louis-Philippe Ier, qui loge dans la maison voisine.
Ah, il faut rappeler que c'est la grande époque des stations thermales, vous nous l'aviez dit dans la chronique qu'on avait faite sur Radio Présence.
Oui, que vous appeliez...
Perception des Pyrénées à travers le temps.
D'où vous aviez réduit à PPT.
PPT, c'est ça, oui. Perception des Pyrénées à travers le temps, PPT. C'était notre chronique qui était absolument... C'est, je crois, une thèse que vous aviez fait, non, une époque.
Oui. Hein? Voilà, j'avais travaillé sur l'image des Pyrénées.
Et on s'est aperçu effectivement que les Pyrénées, à l'époque, on ne les gravissait pas. On en avait même peur.
Voilà.
On restait qu'en bas.
Oui, à la fin du 18e, en tout cas, c'était comme ça.
Voilà. Et puis, après...
Peu à peu, on a levé les yeux.
Début du 20e siècle, on s'est aperçu que ça glissait quand il y avait de la neige. Et aujourd'hui, on sait comment ils sont devenus les Pyrénées. C'est devenu un grand parc d'attractions.
Exactement, Philippe. Ce que je déplore un peu.
Alors, il faut rappeler que c'est la grande époque des stations thermales. Effectivement, avant d'aller faire du ski, on venait se soigner dans toutes les villes thermales des Pyrénées, qui attirent donc effectivement le grand monde. Et je rappelle d'ailleurs que Bagnères, on l'appelait
le petit Paris.
Petit Paris. On a peut-être oublié ça.
Tous les grands de ce monde, de l'Europe entière, venaient. Et après avoir séjourné à Barèges, le duc de Montpensier se rend à Pau pour présider aux fêtes qui célèbrent l'inauguration de la statue de notre bon roi Henri IV.
Mais auparavant, le duc de Montpensier assiste à des fêtes données en son honneur à Luce et à Barèges. Et bien voilà, nous sommes nous aussi invités à la fête. On vous écoute, Anne.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Alain Bourneton est né à Aulus-les-Bains en 1942. Son amour pour les Pyrénées ne s'est jamais démenti. Il n'a cessé de parcourir des vallées, de gravir des sommets et d'écrire pour partager sa passion. Il a même retrouvé des textes écrits sur les Pyrénées au XIXe siècle, des textes inédits qu'il a regroupés dans un ouvrage intitulé « Voyages inédits dans les Pyrénées 1833-1859 ». Le passage retenu appartient à un manuscrit écrit lors d'un voyage accompli en 1843 par Alphonse Blaquière, qui était alors un adolescent âgé de 14 ans. Assurément, le plus jeune auteur présenté lors de ses chroniques. On ne s'étonnera pas, donc, qu'il se rende à Gavarnie avec son grand-père. Notre principale excursion fut à Gavarnie. Partis à 4 heures du matin, nous descendîmes à Luce où nous restâmes un moment pour faire prendre le signalement du cheval que me montait mon grand-père. Nous étions avec plusieurs agenais que nous avions rencontrés la veille et avec qui nous devions faire cette partie. Nous partîmes de Luce vers 5 heures, ayant été retardés par les gens de la douane qu'il avait fallu faire lever. Nous suivîmes la route de Saint-Sauveur jusqu'au pont et au lieu de le traverser, nous prîmes la rive droite du Gave. La route est assez belle, quoique n'ayant guère plus de 2 mètres de large. Elle a été faite il y a une vingtaine d'années dans les flancs du pic de Bergonce jusqu'au passage de l'échelle. Là, on traverse le Gave sur un pont qui a 2 arches, l'une au-dessus de l'autre. Une tour est située à l'entrée et en défendait jadis le passage aux Espagnols. Ici, la route se rétrécit et devient plus dangereuse. D'un côté, des montagnes très élevées, de l'autre, un torrent qui est très profond à cet endroit. Cette route vous conduit aussi jusqu'à Pranières, où l'on repasse sur la rive gauche du Gave. On arrive à Gèdre sans le voir. On entre par Gèdre dessus et l'on arrive au bureau de douane où il faut remettre le signalement de son cheval pour éviter que l'on introduise des chevaux en Espagne. En quittant Gèdre, l'on suit encore quelque temps la vallée. On aperçoit déjà le cirque. Le chemin tourne tout à coup et l'on se trouve dans le célèbre chaos. Spectacle affreusement beau, mais effrayant. C'est un éboulement immense qui a dû être occasionné par quelques révolutions souterraines. Pas un vestige de végétation, pas un être vivant. Quelques corbeaux troublent seuls le silence. On remarque un fer à cheval gravé sur un énorme caillou. Cette marque a été faite par le cheval du fameux Roland qui fit un saut de plus de 2 lieues. On parcourt les flancs du pic du Pain de Sucre qui suit le chaos. Aussitôt après ce pic, on traverse le Gave sur le pont de Gavarny et on entre dans le village. L'auberge est assez bien servie, mais tout est fort cher. Nous y fîmes un fort mauvais déjeuner à 2,50 francs par tête. Nous y trouvâmes plusieurs Espagnols qui portaient des denrées à Barège. Peu de jours après, le prince, duc de Montpensier, arriva à Barège. Il logeait dans la maison à côté de la nôtre. C'est un jeune homme d'une taille élevée, myope et blond. Il était accompagné d'un aide de camp du roi. Une compagnie de grenadiers venus de Pau faisait le service du village pendant le séjour du prince. Luce lui donna une fête qui attira une foule nombreuse et élégante de tous les termes environnants. Elle fut précédée par un banquet au château Sainte-Marie. 2 troupes de paysans, dont une déguisée et l'autre en grand costume de barégeois, dansaient autour du banquet. Après le repas, le prince descendit à Luce où il assista à une course. Des amphithéâtres étaient préparés pour recevoir ceux qui voulaient payer. Les danseurs ne tardèrent pas à arriver. Les 40 chanteurs montagnards exécutèrent divers morceaux et les courses commencèrent d'abord par celles des chevaux de louage qui arrivèrent aussi vite que des limaçons. Ensuite, celles des ânes montées par des femmes en costume de béarnaise et en capulet. Et terminées par les courses d'hommes et la course au sac qui consiste à mettre plusieurs hommes dans des sacs jusqu'au cou. Et celui qui arrive au but sans tomber remporte le prix. Ensuite, par le mât de cocagne, ce fut un gamin qui remporta le prix. Il fit en outre une assez bonne recette en quêtant dans les tribunes. Le prince ne tarda pas à partir, accompagné de la garde barégeoise qui s'était formée lors de son arrivée à Barège et qui, avec un arc de triomphe que l'on avait élevé à l'entrée du village, étaient les seuls honneurs qu'on lui eût rendus. Il est vrai que la nuit était fort avancée lorsqu'il fit son entrée ayant dîné à Luce. Nous vîmes à sa suite depuis Luce le jour des courses. Nous avions pris des chevaux qui, vu la solennité, nous coûtèrent 3 francs chacun. Quelques jours avant l'arrivée du duc de Montpensier, il y avait eu des courses à Luce, mais fort insignifiantes. On oublie, en le lisant, que ce texte a été écrit par un adolescent de 14 ans qui séjourne dans les Pyrénées en compagnie de son grand-père. Car sont observés de façon remarquable les détails de la route et du paysage. Cet adolescent deviendra un grand architecte bordelais auquel sera confiée la restauration de plusieurs châteaux, dont celui de Saint-Taon, qui était la propriété de Montesquieu. Le passage retenu a été écrit par Alphonse Blaquière. Il a été publié par les éditions Pyrégraphe dans un ouvrage intitulé « Voyages inédits dans les Pyrénées », ouvrage que nous devons à Alain Bourneton.
Et voilà un texte écrit par un tout jeune auteur. Il avait alors 14 ans quand il vient des Pyrénées en juillet 1843 et quand il écrit ce texte.
Apparemment, Philippe, pendant ce séjour, il contracte, comme disait Ludovic Gorier, une maladie incurable, le virus des Pyrénées, car Alphonse Blaquière va devenir ensuite un pyrénéiste.
Il sera même vice-président de la section sud-ouest du Club Alpin Français. En tant qu'architecte, il dresse d'ailleurs les plans de l'abri du Mont-Perdu, du refuge de Tucrouille.
Et il séjourne dans les Pyrénées, en même temps que le duc de Montpensier, mais aussi en même temps que Victor Hugo. En 1843, on en a déjà parlé, Philippe, Victor Hugo suit une cure thermale à Cotteray.
Et comme notre adolescent et son grand-père Victor Hugo mangent mal à l'auberge de Gavarnie, on dira pas le nom, hein,
oui.
Du lard rance, du pain dur et une mauvaise omelette.
Oui, c'est ce que Juliette Drouet note dans son journal et elle trouve en plus, comme le jeune adolescent, qu'ils ont payé bien cher.
Ah oui, ça j'imagine. La semaine prochaine, nous gravirons justement le pic du Midi d'Ossau avec le duc de Montpensier. Voilà, autre légende des Pyrénées, hein,
ce le pic du Midi de Sceaux,
qui pour les Bernais est plus haut que le pic du Midi
de Bigorre.
Mais nous, on dit toujours qu'avec la hauteur de l'antenne du pic du Midi, nous sommes plus hauts que celui-là. Voilà, c'est toujours des petits matchs comme ça entre les Bernais et les Bigourdes. Merci beaucoup, Anne Lasserre. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Philippe.
L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet radioprésence.com. Et sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter.
À Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Plus de 50 000 personnes se sont recueillies depuis hier devant le cercueil du pape François. La basilique Saint-Pierre est restée ouverte.